Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Bonjour, le français fait partie des quelques langues parlées aux quatre coins de la planète. Il se situe au 9e rang des langues les plus utilisées et on compte aujourd'hui un peu plus de 169 millions de francophones à travers le monde, c'est-à-dire plus de 3% de la population mondiale. Notre chroniqueur, Axel Mauger, professeur de littérature, connu sur Canal Académie pour ses émissions sur les francophiles du monde entier, nous dresse l'état des lieux du français dans le monde et du prestige dont notre langue jouit encore. On l'écoute.
L'état des lieux pour le français est aujourd'hui le suivant. D'abord, un minimum de 120 millions de locuteurs, dont un peu plus de 60 millions pour la France, utilisent le français comme première langue, comme langue maternelle. Ensuite, un minimum de 75 millions d'autres locuteurs l'utilisent comme deuxième langue, ou voire même troisième langue. Enfin, n'oublions pas les très nombreux francophiles qui, du Japon aux États-Unis, en passant par des dizaines de pays, vouent un culte à tout ce qui touche à la civilisation française, à l'art de vivre en français. Pour l'heure, sur la planète, il faut rajouter cela, un minimum de 100 millions d'enfants et d'étudiants apprennent le français dans le monde, ce qui n'est pas rien. Si bien que l'on peut constater, n'en déplaise à certains, que la langue et la culture française occupent une place qui, dans la réalité des faits, passe du 9e rang, à peu près ex aequo avec le Japon, pour le nombre strict de locuteurs première langue, au 2e rang grâce à son aura et à son prestige, donc à l'aura et au prestige de la langue française. Et puis, depuis 50 ans, le français a appris la modestie et cela lui a fait du bien. Or, depuis peu, phénomène nouveau, l'anglo-américain, la première langue mondiale dans le domaine de la communication économique, commence à perdre son brillant, faute de savoir dialoguer comme il le faudrait. En revanche, le français, qui a eu des revers, intéresse de plus en plus de monde en raison, si j'ose dire, de la façon dont il a su, dans l'ensemble, gérer ses revers. Je m'explique. Les revers subis depuis 50 ans par la langue française ont eu le mérite, on s'en aperçoit très nettement aujourd'hui, de recentrer notre langue sur son rôle véritable, son rôle d'avenir. Notre univers est prêt à partager les expériences et à accueillir les diversités en rejetant certaines tentations dominatrices héritées du passé. Notre cher disparu, Léopold Sédar Senghor, était persuadé que dans la civilisation de l'universel, la langue française était tout à la fois précurseur et vigie. Ainsi, il est clair, pour le plus grand nombre, à présent, que le français n'a nullement vocation de se substituer, comme il a pu le faire, aux langues nationales. Tous les dirigeants du monde entier devraient lire ou relire Machiavel ou Mazarin, notamment le bréviaire des politiciens. Leur vision stratégique en bénéficierait. Ils ne devraient pas oublier non plus de se plonger dans les fables de La Fontaine. En général, on peut affirmer qu'un dirigeant sans culture fera un mauvais chef, car sans le savoir, il s'auto-limitera en méconnaissant les grands principes et les subtilités de la psychologie. La France, qui garde une identité assez forte, pourrait occuper en Europe, toute proportion gardée, je pense entre autres à la démographie, la place de la Chine en Asie. N'est-ce pas le nouvel académicien François Cheng qui considère que si la Chine s'impose comme l'empire du milieu dans son cadre géographique, la France, elle, est au cœur de l'Europe, ce qui l'a mené, comme la Chine au cours de l'histoire, à prôner la notion de centralité, engendrant un esprit tendu vers la mesure, l'équilibre et l'universalité. Comme la Chine, mais à sa façon, la France, aujourd'hui, à condition que l'ensemble de ses élites politiques, culturelles et économiques soient davantage fiers de leurs origines et de leur savoir-faire, a de belles cartes à abattre. Qu'elle les abatte donc ! Première destination touristique du monde, c'est dire son côté rayonnant et attirant, Notre pays est un symbole du juste milieu, comme souhaite également l'être la Chine, et s'affirme comme l'un des rares pays à se tourner résolument vers le multipolaire. Encore une réflexion venue du pays du dragon, tirée du livre du philosophe Lin Yutang, de l'importance de vivre, tel est le titre de son livre, et dans lequel il écrit « De tous les peuples, ceux qui ont le plus de points communs, ce sont les Français et les Chinois. Sens du raffinement, goût pour les autres, la peinture, la cuisine, une vénération pour l'éducation, goût pour l'humour, l'humour pour rien, pour se faire plaisir, pour communiquer, ces deux empires du milieu et de la beauté offrent au monde, ne l'oublions pas, l'un Versailles, l'autre la cité interdite. » Un film vient d'ailleurs d'être fait sur la cité interdite, il est tout à fait extraordinaire. Signe à la fois de splendeur et parfois réalité pesante de centralisme. Du culturel au sens large, revenons plus précisément au diplomatique pour souligner que tout voyageur attentif peut vérifier à quel point il y a encore partout sur la planète un vif désir de France qui reste beaucoup plus fort que les Français ne le croient eux-mêmes. Notre problème, ne le cachons pas davantage, c'est d'être encore un peu trop hexagonal malgré notre souci réel d'ouverture. Il suffirait de l'être moins pour reconquérir les cœurs, ce dont nous sommes tout à fait capables. Certes, notre pays suscite à l'occasion de la colère ou de l'agacement, mais aussi un très vif intérêt, une immense curiosité, sympathie, admiration et amour dans de nombreux pays. Il faut aller dans le monde arabe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou encore en Asie ou en Afrique, mais aussi aux États-Unis, pour constater ce que la France et ses valeurs signifient. Dans l'ensemble, il faut dire que nos intellectuels jouent plutôt convenablement leur rôle d'éveilleurs et de passeurs. Reste à exhorter nos hommes d'affaires d'être un peu moins frileux, d'oser s'affirmer davantage et d'oublier parfois de se regarder exclusivement dans le miroir Made in USA, peuple qui a certes des qualités, mais trop souvent oublié de la réalité des autres. Prenons l'exemple de Jean-Luc Lagardère, qui nous a quittés il y a un moment. C'était un Français avant tout. Et lorsqu'un jour son ami Maurice Druon lui a demandé de créer une école française en Albanie, il l'a fait sans hésiter. Bref, depuis que la France s'efforce de jouer un rôle d'arbitre respecté, elle pense en effet que pour influencer l'autre, il faut d'abord le comprendre et cherche à atteindre des objectifs universels. Plus ce vif désir de France se cristallise et plus elle exerce et exercera une influence réelle. Pour l'heure, même si tout est loin d'être parfait, la France semble avoir retrouvé son cap. Dans ces conditions, il ne faut jamais oublier la formule du philosophe Sénèque : celui qui ignore vers quel port il se dirige ne trouve jamais de vent favorable. C'est l'éminent professeur Jean-Baptiste Durocel qui rappelle que de 1800 à 1914, 50 à 60 millions d'Européens se sont installés aux États-Unis. Parmi eux, il y avait entre autres 17 millions de Britanniques, 16 millions d'Allemands, 10 millions d'Italiens, 3 millions d'Austro-Hongrois, 700 000 Grecs et seulement 100 000 Français. Or, les Français venus de France, qui étaient donc très peu nombreux par rapport à beaucoup d'autres Européens, ont réussi, grâce à leur aura culturelle, toujours la qualité et non pas la quantité, à faire en sorte qu'une bonne partie des élites américaines ait une vive considération pour la France, et ce pendant longtemps. Continuons à utiliser notre franc-parler, soyons toujours plus audacieux sans être arrogants, et surtout valorisons les autres, redevenus aujourd'hui pays du juste milieu lorsque nous agissons ainsi, l'on nous apprécie infiniment. Si ces 30 dernières années ne nous voilons pas le visage, le français a reculé en France, c'est surtout dans le milieu des affaires. Comme le souligne d'ailleurs avec force un rapport publié sous le titre « Les Français, leur langue », rapport qui date de 2001. Et cette réalité est d'autant plus regrettable que, je crois avec Claude Agège, que si la France veut vendre mieux à l'étranger ses produits de luxe, ses parfums, ses vêtements, ses vins, ses fromages, etc., de nombreux clients préféreraient qu'on s'adressât à eux en français, langue prestigieuse, sauf pour certains patrons snobs et peut-être apatrides. Allons, chers hommes et chères femmes d'affaires, ne soyez pas ridicules par inconscience en délaissant systématiquement notre langue, qui peut au contraire nous faire progresser vos ventes. Dites non au snobisme mal placé qui transforme la réalité en une aberration commerciale. Et d'ailleurs, les réactions commencent à jaillir un peu ici et là, car en juin 2006, le service comptabilité générale de la société Europe Assistance s'était vu imposer un logiciel entièrement en anglais, accompagné d'un user guide, donc un guide pour l'utilisateur, également en anglais. La section CFTC d'Europe Assistance avait aussitôt demandé expressément l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Quelques jours plus tard, une notice traduite en français était remise aux utilisateurs, mais la direction refusait de faire traduire le logiciel. À cela s'ajouta quelques jours plus tard la mise à disposition des agents commerciaux d'un logiciel de base de données en anglais, accompagné d'un courriel explicatif également en anglais. Là aussi, la direction refusa de faire effectuer les traductions nécessaires demandées par le personnel. Devant cette fin de non-recevoir, la CFTC assigna à la société Europe Assistance devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le jugement a été rendu le vendredi 27 avril 2007, c'est-à-dire récemment. La société Europe Assistance est condamnée à la traduction des deux logiciels sous astreinte de 5000 euros par jour de retard. C'est donc un nouveau succès dans les entreprises pour le respect de la loi du 4 août 1994. Ce communiqué m'a été adressé par Marceau Deschamps, vice-président de Défense de la langue française. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement rejoindre Défense de la langue française à www.langue-française.org. Et par contre, une petite précision de Marceau Deschamps, à ce jour, nous ne connaissons pas la date de départ de cette pénalité. Espérons que Europe Assistance a dû réagir, nous nous renseignerons bien entendu. Donc, si vous voulez, hommes et femmes d'affaires, n'oubliez pas que la langue française existe, est importante, est appréciée et désirée dans le monde entier. Écoutons également les conseils de M. Boutros-Boutros-Ghali, lequel est persuadé que les grandes entreprises françaises à vocation internationale ont un devoir de civisme linguistique essentiel, mais aussi des intérêts économiques évidents. Pourquoi ce vif désir de français à l'étranger ? Parce qu'il y a une qualité française, une confiance dans nos produits, un respect pour nos traditions, un désir d'excellence. Avec Maurice Druon, Alain Decaux et tous les amoureux du français, renversons à présent la vapeur et plaquons nos paumes sur les tables de conférence en disant « Nous voulons notre langue, nous voulons parler la langue des autres, y compris l'anglais, mais pas seulement l'anglais, c'est cela qui pourrait s'appeler la volonté politique. Le partage culturel est donc le vrai dialogue des cultures. » Et vous allez voir dans la suite de cette émission que notre langue est désirée dans le monde entier et notamment en Italie, chez les francophiles italiens.
C'était Axel Mauger qui nous dressait l'état des lieux du français dans le monde, du désir du français à l'étranger. Axel Mauger vous invite tout de suite à poursuivre votre rencontre avec les francophiles italiens, l'émission Partager le savoir, intitulée « Bonjour ».